Ils sont de moins en moins nombreux. Les Français les aiment, leur cherchent des conjoints, mais leur demandent aussi des comptes. Qui sont-ils? De quoi est fait leur quotidien? Pourquoi exercent-ils ce métier? Et d'ailleurs, est-ce vraiment un métier? Les agriculteurs nous nourrissent, façonnent nos paysages. Pour mieux les comprendre et mieux apprendre à les aimer, on va prendre le petit déjeuner avec eux et essayer de mettre nos pieds dans leurs bottes.
Noémie a le sourire et la joie de vivre de ceux qui savent que ce n'est pas toujours facile. Épanouie et radieuse, elle était fière de m'expliquer comment elle est devenue hélicicultrice aux côtés de sa mère. Ce projet un peu fou vu de l'extérieur, mais réfléchi dans les moindres détails pour réussir à produire ce qu'elle aime manger. Toujours attirée par la nature, Noémie est passée par plusieurs métiers, plusieurs envies avant de trouver sa voie, le sens qu'elle veut donner à son métier. Quand on la rencontre, on se dit qu'elle est bien dans ses baskets et que ses escargots doivent être bien dans leurs coquilles. Dans ce petit coin de Haute-Savoie, non loin de Genève et d'Annecy, elle élève 250 000 escargots et ne compte pas s'arrêter là. Avec Patricia, sa maman associée, elles construisent ensemble leur entreprise petit à petit. Actuellement pluriactive, elles fourmillent de projets pour leurs escargots et la transformation qu'elles en font. Un matin caniculaire de fin août, nous avons discuté bave, laboratoire et palette. Allez, on essaie ses bottes ? Bonjour Noémie.
Bonjour.
Alors, est-ce que tu peux commencer par te présenter, s'il te plaît?
Alors, je m'appelle Noémie Crochet, j'ai 26 ans et je suis installée avec ma maman au sein de l'ERL L'Escargot en Herbe, okay. Un élevage d'escargots.
Sur quelle commune?
À Thuzy, en Haute-Savoie.
Tu dirais que t'es quelle agricultrice?
Je suis une agricultrice polyvalente, passionnée par ce que je fais et par le monde agricole.
Ouais.
C'est principalement ça. C'est déjà pas mal.
Ouais, c'est bien beaucoup. Alors, question rituelle, comment elles sont tes bottes?
J'en ai pas.
T'as pas de bottes, je me demandais, tu vois.
Souvent, je fais la petite blague. En fait, j'ai les chevilles qui enflent, donc du coup, j'arrive plus à mettre les bottes. Non, suite à un accident, j'arrive pas à mettre les pieds.
Voilà. Bah, moi, j'ai des gros mollets, je mets des bottes. Alors moi, je vois l'endroit où tu as ton exploitation. Je suis arrivée, j'ai la chance d'être venue jusqu'à ici. Mais est-ce que pour ceux qui écoutent, tu peux décrire un peu l'environnement autour et à quoi ça ressemble une exploitation d'escargots?
Alors, l'extérieur, souvent, c'est une simple maison avec un grand jardin.
Oui, c'est ça.
Ici, concrètement, on est à Thuzy. C'est un tout petit village qui reste très campagnard, ouais. Qui a une super dynamique. On est à 20 km d'Annecy et on est dans la plaine, là, Haute-Savoie.
La plaine qui a des vallées, quand même. Pour l'avoir fait en voiture.
Oui. Et du coup, on se retrouve dans un champ avec une structure en filet vert, enfin, pour les oiseaux. Et de l'herbe et des bâches.
D'accord.
Ça va être, là, on a en gros 1000 mètres carrés qui sont parqués d'escargots à l'intérieur. Et on va avoir vu sur les montagnes et sur la chaîne du Jura et sur le Val de Fère.
Alors, on va repartir de ton parcours. Est-ce que tu peux me raconter ton enfance déjà? Où elle s'est passée? Où est-ce que tu as fait ton scolarité? Qu'est-ce que c'était tes jeux? Enfin, voilà.
Alors, je suis née enfant du monde agricole, mais mes parents dans le TP, enfin mon père dans le TP, ma mère est banquière. Donc on a grandi tout simplement, j'ai une sœur, une grande sœur qui a 4 ans et demi de plus que moi. On a eu nos oncles, mon parrain qui était agriculteur, enfin ma tante, mon parrain. Donc on a grandi dans l'agriculture. Après j'ai eu à 8 ans et demi, okay. J'ai eu une forme de rhumatisme, donc du coup ça, je faisais du cheval, du ski, ça a un peu stoppé tout ça. Après ma maladie elle a évolué, bah, c'est bien. Donc voilà, donc après, bah au début je voulais être fleuriste, après...
Ouais, donc déjà la nature quand même.
Toujours la nature, ouais. L'extérieur. J'ai fait un bac pro horticole du coup.
D'accord.
Je me suis éclatée. Ensuite, j'ai adoré l'agronomie, donc j'ai dit, bah je vais tenter un BTS agronomie à Lyon. Après, c'était bien, ça correspondait pas forcément tant à mes attentes. J'ai loupé le BTS pour une épreuve de français... toute simple. Donc j'ai travaillé une année, j'ai travaillé en centre de gestion à la DDT et en banque, toujours agricole.
Ouais.
J'ai repassé le BTS qui s'est passé super simplement en repassant mon épreuve de français.
Donc tu l'as eu.
Donc je l'ai eu.
T'as ton BTS.
Et ensuite j'ai commencé, comme j'avais travaillé en centre de gestion, j'ai entamé une licence gestion des productions agricoles à Besançon en apprentissage.
Et du coup l'apprentissage tu le faisais où?
Albertville en Savoie.
Ouais. Au centre de gestion.
Ouais.
Ok, d'accord.
Au centre de gestion. Après cette licence, j'y suis restée 2 ans. Après, j'ai pu revenir en Haute-Savoie. J'y suis restée quelques mois.
Ouais.
Et je ne pouvais plus travailler dans un bureau, c'était plus fait pour moi, j'arrivais plus à concilier tout. Donc du coup, j'ai eu l'opportunité d'être commerciale pendant une grosse année. Et après, mes problèmes de santé m'ont un peu rattrapée. Ouais. Je faisais beaucoup trop de kilomètres, ouais. C'était quand même, fallait beaucoup porter, donc c'était trop dur physiquement. Ouais. Donc je me suis rendu compte rapidement au bout de quelques mois. Du coup, on a fait une transition pour que je change. Ma maman avait besoin, entre-temps, on va revenir en arrière. Ouais. 2018, donc j'étais en licence, l'année avant ma licence, ma maman s'est installée en tant qu'agricultrice sur Sillingy, donc à 6 km d'ici. D'accord. Dans notre jardin. Elle a fait une formation au lycée Arénac à Chambéry,
ouais.
Où elle a appris à élever les escargots, toute une formation en héliciculture. Et du coup, elle est venue nous voir, mon père, ma sœur et moi, pour nous dire, est-ce que si je fais ça, est-ce que vous me suivez ? Et on a dit, banco.
Ouais.
Et du coup, après, elle a lancé le projet, elle s'est installée. Moi, ça m'a tout de suite plu. Ouais. Je me suis forcément tout de suite investie.
Ouais.
Déjà, notamment par la compta, par la communication, ouais. Tout ça. Et donc elle a lancé son exploitation. Elle était banquière, donc elle a commencé à travailler un peu moins.
Oui.
Donc aujourd'hui, elle travaille actuellement toujours 2 jours par semaine.
Elle est plus réactive, ouais.
Elle est plus réactive aussi. Et donc, du coup, on arrive fin 2021,
ouais.
Fin de commercial. Maman avait besoin de quelqu'un. Notre activité est ultra saisonnière.
D'accord.
Donc du coup, je l'ai rejointe et j'avais tous les diplômes agricoles, donc un parcours à l'installation classique. Et j'ai pu m'installer. J'ai eu un accident de cheval, donc j'ai pu m'installer du coup début mai.
Ouais.
Et voilà. Et après, lancé dans l'escargot. Et moi, j'ai eu travaillé à la suite de mon installation, comme c'est très saisonnier, il n'y a pas encore beaucoup de revenus.
Oui.
On est en EARL et du coup j'ai eu travail en centre de loisirs.
D'accord.
Avec les enfants parce que j'avais BAFA. Et maintenant je travaille 2 jours par semaine en pépinière.
D'accord, ok. Donc toujours la nature.
Toujours la nature, les arbres. Enfin, okay. C'est une super opportunité. J'adore ce que je fais aussi et je suis contente de travailler à l'extérieur à mon âge.
D'accord.
J'ai encore ce besoin-là. Ouais.
Juste pour bien comprendre, tes parents étaient pas avant que ta mère fasse ce choix de vie. Tes parents étaient pas agriculteurs. T'avais de la famille qui l'était, tes grands-parents, ils étaient agriculteurs, ouais. Donc t'avais quand même ce lien-là avec l'agriculture,
c'est ça.
Ouais. Ok.
Ma sœur est devenue agricultrice pour la petite histoire.
D'accord. Ok. Oui. Donc il y a un lien. Quand tu dis j'avais envie d'être fleuriste, à quel moment cette envie-là, elle t'est passée, puisque t'as fait un bac pour l'horticole.
Après j'avais aussi le facteur où c'est que j'avais une maladie qui était assez présente à l'époque,
d'accord.
Qui m'était beaucoup en béquille.
Ouais.
Et du coup je m'étais dit c'est peut-être un peu plus
compliqué.
Simple.
D'accord, c'était des
et
choix.
Et puis au fur et à mesure côté artistique me plaisait beaucoup.
Ouais.
Donc puis finalement aujourd'hui c'est pas.
D'accord.
Mais après on nous avait dit en bac vous verrez dans 10 ans vous changerez peut-être de métier. Aujourd'hui, je m'éclate dans ce que je fais et la vie, elle est faite que peut-être que tout le monde fera autre chose dans 10 ans.
Oui, d'accord. Au moment où est-ce que tu te souviens du moment où t'as un peu formalisé, que ce soit à toi ou à ton entourage, le fait que tu avais envie, toi aussi, de devenir agricultrice?
Alors, pour la petite anecdote, en BTS, j'avais dit, avec mes problèmes de santé, jamais je m'installerais. Parce que, pour moi, dans ma tête, c'était m'installer
avec
en vache laitière.
Ouais.
Et du coup, là, ça s'est fait tellement naturellement avec ma maman que c'était logique.
Ouais, d'accord. Et l'escargot, pourquoi ?
Parce que à la toute base, ma maman voulait peu d'investissement, une petite structure. Il y a des contraintes, mais ça reste quand même. On a besoin de traire 2 fois par jour.
Oui.
Hein.
Il y a moins d'astreintes.
Voilà. Et puis petit investissement, travailler à l'extérieur, pouvoir commencer soi sans avoir besoin d'énormément. Et puis on a une chance qu'on loue un labo à Chambéry.
D'accord.
Donc on n'a pas besoin de louer un labo, enfin de faire un labo tout de suite.
D'accord. Ok. Donc on va arriver dans le cœur du sujet, l'escargot.
L'escargot.
Donc tu vas forcément me raconter un peu l'histoire de ta maman aussi, puisque c'est elle qui a lancé l'activité, mais. Concrètement, comment on fait quand on veut démarrer un élevage d'escargots ? Est-ce qu'on va les cueillir dans la nature ? Est-ce qu'on les achète ? C'est quoi le truc ?
Nous, ce qu'on élève, c'est du gros gris, Helix aspersa maxima.
Ok.
Donc, et ce qu'on trouve dans la nature en France, c'est de l'escargot de Bourgogne.
D'accord.
Helix pomacia.
D'accord. Donc, c'est pas le même.
C'est pas le même. On trouve dans les supermarchés l'Helix pomacia, mais il vient des pays de l'Est.
D'accord.
Et il a la muqueuse blanche. Et les miens, ils ont la muqueuse noire quand ils sont adultes. Et ils sont adultes en l'espace de... Enfin, le cycle dure à peine 1 année.
D'accord.
Donc, nous, ce qu'on fait, première chose, on fait des parcs à escargots,
oui,
avec de l'herbe, des petites bâches où on peut marcher. Enfin, nous, on procède comme ça.
Oui, oui.
On met des planches où ils peuvent se coller. Et donc, on s'en occupe de mars jusqu'au début mai. Donc, on a 2 mois de création, oui, de parc, de remise en place, tout ça. Et ensuite, on va acheter des bébés escargots qui sont gros comme une tête d'épingle.
D'accord.
Et on ouvre les boîtes. En 1h30, ils sont tous dehors de la boîte.
D'accord. Et tu les achètes où, en fait? Comment...
Chez d'autres éleveurs.
D'accord, il y a des éleveurs dans le métier, c'est, oui, des naisseurs d'escargots, quoi.
Voilà. Okay. Et en fait, faudrait... Nous, on pourrait le faire à terme, mais pour le moment, on n'est pas équipés. Il faudrait avoir des chambres avec pour réveiller des reproducteurs au mois de février, pour qu'ils aient le temps de pondre, pour qu'on ait des escargots début...
Parce que les escargots, c'est hermaphrodite, c'est ça?
Oui, c'est,
ouais,
ça.
C'est ça, ouais.
Ils vont chacun se féconder et ils,
ouais,
vont partir chacun de leur côté.
Bon.
Donc après, on les met en parc et ensuite, on va les nourrir tous les jours.
Ça mange quoi, des escargots?
Ça mange de l'air,
oui,
ça mange de la farine.
Ouais.
Et après...
De la farine de céréales, du coup?
Farine, c'est un mélange de céréales.
D'accord, ouais. Okay.
Et avec du carbonate de calcium, c'est spécial escargot.
D'accord.
C'est la coop qui nous le vend, enfin...
D'accord.
Donc non, c'est assez... Et après, tous les jours, nourrir. Ils sont arrosés, nourris. On les arrose pour qu'ils sortent et qu'ils viennent manger.
D'accord.
Et puis, bah, pour maintenir une végétation. Et après, bah, nous, le gros entretien l'été, ça va être de l'entretien des parcs.
Ouais.
Là, un peu de transfo l'été. Et puis après, bah, là, à partir du 20 août, on commence à ramasser jusque, ça dépend des années, mais en général, faut que fin octobre, tout soit ramassé. Parce qu'en fait, nous, ici, après, on va avoir des gelées.
Ouais.
Et du coup, ils vont geler. L'espèce qu'on élève, elle va geler.
D'accord.
Donc, du
coup, il aurait fallu les mettre en chambre, comme tu disais,
ouais,
pour les garder pour l'hiver.
D'accord. C'est ça, ouais.
OK, d'accord.
Donc, après, de là, de maintenant, on les ramasse tous, on les met en filet. Et après, on va les abattre et les transformer. Les décoquiller,
okay,
faudrait dire. C'est plus joli.
Du coup, les parcs, tu dis que vous les construisez chaque année, ça veut dire que vous changez d'emplacement tous les ans?
Non, c'est que... Tous les ans, on rajoute un nouveau parc.
Okay.
Comme on est en phase de croissance, tous les ans, on rajoute un parc. Donc, et puis, nos parcs sont composés de planches. Donc, il y a une planche, enfin, pour expliquer comme ça,
ouais,
il y a un moellon,
ouais,
il y a des planches horizontales, donc,
ouais,
qu'on appelle des mangeoires. Là, on va mettre à manger.
Ouais.
Et après, on va avoir des planches.
Des pentes, en fait, pour,
ouais,
qu'ils puissent monter.
Et ils ont besoin de se coller, en fait.
D'accord.
Donc, nous, on a un système comme ça. Là, on a testé un système avec des palettes cette année.
Ouais.
Et voilà.
Ok, d'accord.
Et après, bah, faut ranger, nettoyer ça, et puis enlever les filets parce qu'on a des filets anti-oiseaux.
Ouais, d'accord.
Et voilà.
Ok. C'est quoi, alors, évidemment, tu es la première hélicicultrice que je rencontre, genre, beaucoup de questions un peu techniques. C'est quoi le besoin? Alors, au-delà de manger, l'escargot, il a besoin de quoi? Il a besoin d'une certaine surface, il a besoin, justement,
ouais,
de pente, c'est quoi ses besoins?
Il a besoin de se coller, mmh, la journée, déjà, il vit la nuit.
D'accord.
Après, il a besoin de manger et faut qu'il y ait, oui, il ait de l'eau pour bien sortir, pour bien grossir.
Et il s'hydrate avec l'eau des plantes. Enfin, il boit pas, quoi. Je veux dire, vous avez pas besoin de lui,
non,
donner à boire.
Non,
ouais,
non,
c'est,
non,
ça.
Ouais, non, okay, non, ça, d'accord, il va. Puis après, ça va venir avec l'arrosage.
D'accord. Ok.
Après, quand à ce stade-là, là, on arrive, on est fin au 20 août.
Ouais.
On a nos 225 000 escargots.
225 000, ouais, c'est énorme.
Plus grand cheptel. Non, pas le plus grand de la Haute-Savoie, mais ils peuvent tous se ranger avec leur bête à cornes. Et bah, on les entend, ils font un petit...
Ouais.
Enfin, c'est léger,
oui,
hein, mais du coup, voilà.
D'accord, ok.
Et puis après, ils grossissent au fur et à mesure jusqu'à... On les ramasse quand ils commencent à être aptes à se reproduire, en fait.
D'accord, ça veut dire que tu dis que vous les ramassez à partir de fin août jusqu'à mi-octobre.
Ouais.
Ça veut dire qu'il y en a qui vont être prêts plus tôt.
Oui.
Et ça, c'est parce que leur croissance est différente, hein, parce,
oui,
qu'ils arrivent tous au même stade.
Oui, ils arrivent tous au même stade. Après, il y en a certains, ils sont petits, mais bon, sur une population de 225,
oui,
000 personnes.
Oui, oui. Non, non, mais ouais. C'est...
Et on en met 225 000 en parc et on compte 20 à 30% de pertes.
Et là, du coup, la perte, elle est due à la mort naturelle.
Mort naturelle.
Il y a des prédations.
En prédation, bah, on en écrase, hein, on va pas se cacher. Mmh. Même si on évite, parce que quand on rentre dans les parcs, normalement, ils sont tous collés, mais bon, des fois, ça arrive.
Mmh.
Y en a qu'on trouve pas dans l'herbe.
D'accord.
Après, on peut avoir des rats, des hérissons.
D'accord.
Il y en a, et ça peut aller jusqu'au blaireau, ah ouais, au sanglier qui ouvre les parcs.
Ah, vous avez
des sangliers? Oui. Mais c'est très rare.
Ouais.
Hein, c'est très rare. Donc, il y a plusieurs prédateurs. Mais le principal, c'est hérissons, rats et tout ce qui est jet.
Et donc, les oiseaux, vous mettez des filets. Pour les hérissons et les rats, vous faites quoi?
On a, bah, nous, dans nos parcs, la majorité de nos parcs sont en tôle déjà à l'extérieur.
Ouais.
Donc, ils ont du mal à rentrer. Après, on a une grillage, un peu de barbelé.
D'accord.
Et puis après, si par malheur, on en a qui rentrent, on piège.
D'accord. Ok.
Voilà.
Oui, non, ok.
Il n'y a pas grand-chose à faire.
D'accord. Et donc, une fois que tu les ramasses, qu'est-ce que tu en fais?
on les ramasse en filet, on les met devant des
Ça veut dire que tu les attrapes un par un, comme ça?
Oui,
ça
oui.
Ça va être
oui.
un peu physique, quand même.
Moi, je m'assois par terre.
D'accord.
Non, mais... Juste mes salopettes aux fesses, parce que je m'assois par terre, comme ça. Et du coup, on les met en filet, on les met devant des grands ventilateurs.
Ouais.
Au noir, ils croient que c'est l'hiver, ils jeûnent pendant au moins 3 semaines, ils vident leur intestin, ils rentrent dans leur coquille, ils font une opercule, et ensuite on va les emmener en salle de d'abattage, dans un labo agréé.
Et donc comment on abat des escargots? D'accord.
Ok. Pendant qu'ils dorment. Et ensuite on les décoquille un à un, pareil. Oh,
200, enfin ouais, bon, mettons 200 000 et coquiller un par un.
Oui, on va aussi chez un autre éleveur qui a une machine spéciale qui les décoquille plus rapidement, mais en fait ça nous casse les coquilles et nous on a besoin des coquilles.
D'accord.
Donc du coup on en fait qu'une partie chez lui et on en fait une autre partie chez nous.
Ok.
Et du coup on les décoquille un à un, on enlève l'intestin et ensuite on les recongèle, on les trie, on les calibre.
D'accord.
Et ensuite un autre jour, on va pas dans un labo agréé mais dans une autre pièce où on les transforme en différentes préparations.
D'accord. Tu les calibres parce que en fait vous allez les vendre. Enfin c'est comme les huîtres quoi. Il y a des tailles d'escargots.
En fait, comme on a une gamme de produits assez, pas large, mais on a quand même quelques produits. Par exemple, nos gros escargots, on va plus soit les mettre en courbouillon, soit après s'ils sont très gros, on va les passer en escargotine. C'est une rillette d'escargots hachés. Donc là, même s'ils sont gros, ça gêne pas.
Oui, et si les coquilles sont cassées, là, tu t'en fiches pour ça.
Oui, exemple. Voilà.
Ok.
Après. Enfin, c'est toute une histoire. Ils ont des tailles. Les un petit peu moins gros, on les met dans les coquilles.
Ouais.
Si on a des coquilles assez grosses, parce que il y a des années, on a des grosses coquilles. Il y a des années, on a des petites coquilles. Et ensuite, les moyens, on les met dans les croquis, donc le biscuit cornet de glace en forme d'escargot. Et après, les petits, on les met dans l'escapéro. C'est des escargots en marinade à manger froid comme des olives.
Okay.
Et donc, comme ils se mangent vraiment comme ça, il faut pas qu'il y ait trop de mâche.
D'accord. Comment tu vends justement tous ces produits-là?
Beaucoup de ventes directes.
Ouais.
On a un magasin de producteurs. On est en train d'en créer un deuxième. Et on a quelques restaurateurs, mais ça reste minime.
Ouais.
Nous, c'est pas notre cœur de métier.
Et vous voulez pas le développer?
Il y a un autre éleveur qui est pas très loin qui a.
D'accord.
Qui a beaucoup de restaurateurs. Après, on a souvent une clientèle qui nous ressemble et nous, on est très dans la vente directe.
D'accord.
Donc, du coup, pour
moi. Oui, c'est pas un regret de pas avoir trop de restaurateurs. Enfin, c'est ça ma question.
C'est comme ça. Aujourd'hui, il y a de la place pour tout le monde.
Ouais, bien sûr.
Élevage d'escargots. Ils nous en manquent tous les ans à Noël. Donc, beaucoup de ventes directes. On a la fromagerie où on prend notre beurre qui nous en vend. On a quelques petits.
Et aujourd'hui, vous arrivez à écouler toute votre, tu le dis, il vous en manque. Donc, ça veut dire que vous écoulez largement toute votre production.
En fait, comme, on les ramasse au mois de septembre, faut avoir le temps de les abattre, de les transformer, sachant qu'on partage le labo avec une dizaine d'autres éleveurs.
Ouais.
Avant le 25 décembre.
D'accord.
Parce qu'on peut pas changer Noël.
Oui.
Et c'est là que c'est bien compliqué.
Ouais.
Donc d'accord. On va faire des nuits, tout ça.
D'accord.
Pour.
Et à terme, est-ce que vous avez pour projet, ou toi, peut-être ta mère un peu moins, mais est-ce que vous avez pour projet de créer votre labo?
Oui, ouais. À terme, ouais. Après, il y a des démarches administratives, il y a les coûts qui ont augmenté, tout ça prend un peu de temps, mais pour le moment, on a quand même une solution qui est quand même confortable avec ce labo qui est certes à 45 minutes de route, mais qui limite l'investissement.
Ouais, d'accord. Et ça veut dire que pour, on va dire pour un lot d'escargots, parce que j'imagine vous les abattez pas tous en même temps.
Non, fait un jour, on part avec nos caisses et on espère tous les abattre, mais des fois on n'y arrive pas.
Et donc du coup, vous devez y aller combien de fois au labo pour partir de l'escargot à ébouillanter au résultat?
Alors, combien de fois on va au labo? En soi, pour un escargot, on va le ramasser, on va l'abattre. On va retourner un jour en transport.
Voilà, d'accord, c'est ça. Vous retournez un jour en transport après l'abattage.
Oui.
D'accord, ok, c'était ça.
On peut pas le faire le même jour.
D'accord.
C'est pas possible.
Ok. Et on a tendance à entendre que les escargots, il faut qu'ils sortent leur bave.
Oui, avant, dans le temps, on les faisait baver, mais nous, avec l'année passée, 170 000 escargots abattus, on peut pas... ça nous ferait trop de bave.
D'accord.
On se retrouverait dans une soirée mousse.
C'est clair.
Donc du coup, en fait, une fois qu'ils sont abattus, ils sont triés, on les cuit dans le vinaigre et on les nettoie au sel, on les brasse au sel et ça enlève le mucus.
D'accord, ok.
Le mucus qui est super bon pour la peau, du coup j'ai la peau toute.
D'accord. Et du coup, justement, il y en a qui créent des produits à base de bave d'escargot. Vous, ça vous est jamais venu à l'idée? Vous avez pas envie?
C'est déjà compliqué de faire un labo. Enfin, là, il en faudra un deuxième. Ouais. Du coup, une chose après l'autre.
Et vous pouvez pas la vendre, la boeuf d'escargot?
Non, je sais pas. Je sais qu'il y en a qui ont essayé. Il y a deux.
Ils ont eu des problèmes.
Non, il y en a quelques-uns qui ont essayé, mais après, en fait, faudrait prendre escargots un à un ou les mettre sur des picots pour qu'ils bavent. C'est un mécanisme de défense. Non, pour le moment, ça nous intéresse pas des masses.
D'accord, ok.
On aime bien manger.
Votre objectif à terme, c'est de développer encore la production en quantité. Vous avez un objectif en nombre que vous voulez atteindre?
Non, on n'est pas forcément d'accord avec Patricia.
D'accord. Comme le tien, puisque je m'interroge pas Patricia. C'est quoi ton objectif?
Non, après, objectif, je pense que... Je sais pas, moi je me dis... Après, je pense que la limite, ce sera quand... Le but, c'est qu'on travaille plus à l'extérieur quand il y a l'une et l'autre. Mais c'est quand on faudra commencer à embaucher des salariés, je pense que ça nous correspondra pas.
D'accord, voilà. Ok, bah, c'est une limite comme une autre. L'hiver, ça veut dire qu'en fait, bon, vous avez toute la vente jusqu'à Noël à peu près.
Même le 31, ouais.
Ouais, voilà. Mais en gros, de début janvier à...
Au 15 février.
Vous avez, il se passe rien.
Non.
D'accord.
Bah, on va quand même... Du coup, comme on a des chairs d'escargot abattues, mais non transformées, et qu'on a tout vendu à Noël... Ouais. Bah, on essaye de faire justement tout ce qui est préparation, même au courbouillon.
Ouais.
Enfin, toutes les préparations qui ont des dates de péremption assez longues. Ouais. Comme ça, bah, c'est plus simple.
D'accord,
enfin,
ok.
Dégage du temps un petit peu, on transforme. Je fais un peu de compta. Et puis après, du coup, bah, on travaille quand même à l'extérieur.
Oui, donc, c'est la période, en fait, c'est votre période calme pour les vacances aussi et tout ça, quoi. Et
c'est agréable. Ouais. Enfin, t'es à fond jusqu'à Noël et après, ça fait pshhh.
On a tendance à demander aux agriculteurs par rapport au changement climatique comment ils l'envisagent. Est-ce que vous, ça peut avoir un impact par rapport aux races d'escargots, par rapport, enfin, je sais pas, est-ce que supporte la chaleur, tu vois?
Comme cette année, la sécheresse de l'année passée nous a pas autant touché, mais là, cette année, par exemple, il y en a qui sèchent directement dans les parcs. Donc, l'année passée, on n'a pas eu le problème. Après, moi, ce serait plus la ressource en eau.
Ouais.
Qui me ferait souci.
Ouais, d'accord.
C'est que...
Parce que du coup, vous utilisez énormément d'eau pour arroser tous les jours. Énormément.
Ouais, ça reste minime, mais c'est plus la ressource en eau qui serait limitée. On est dans des bassins où c'est qu'il va vite manquer d'eau. Mmh.
D'accord, ouais. Donc toi, c'est plutôt sur la partie.
C'est partie eau. Faudra peut-être changer la végétation, parce qu'aujourd'hui,
Aujourd'hui, ça. En fait, tu dis mange de l'herbe, mais c'est de l'herbe que vous cultivez.
Ouais.
Donc c'est du riz gras, la luzerne, c'est.
On met. Alors dans. En fait, l'escargot, c'est beaucoup de bricolage, de tests. Comme il n'y a pas tant d'éleveurs, il n'y a pas tant de recherche. Enfin, la recherche, elle n'est pas avec des gros moyens, donc forcément, elle prend vite du temps. Donc, puis ça, il y a pas beaucoup d'éleveurs. Mmh. L'éleveur dans le sud de la France, il mettra jamais la même chose que moi.
Oui, oui, c'est ça. Ouais, les références sont difficiles à créer. Ouais. Mmh.
Donc, dans certains parcs, on a de la consoude parce qu'en fait, elle garde bien l'humidité, elle craint pas le sec. Et les escargots aiment bien se cacher dedans. Après, c'est plus compliqué à découper. Ça prend beaucoup de place, c'est un peu envahissant. Après, dans nos nouveaux parcs, on met fétuc rouge, fétuc ovine, et on met pas mal de trèfle souterrain qui reste assez petit.
Ouais, d'accord.
Et du coup, qui c'est une légumineuse.
D'accord. Donc,
et puis, on met du plantain, parce que c'est riche en calcium.
Ouais, d'accord, ok. L'escargot, il a besoin de calcium pour faire sa coquille. Quoi.
Exactement.
Ouais, ok.
Et crucifère aussi, pardon.
D'accord, ok. Sur les comment dire les relations entre éleveurs parce que vous êtes peu nombreux, je sais pas combien vous êtes en France, mais bon, pas énormément. Est-ce que vous arrivez quand même à avoir des échanges entre éleveurs, un réseau fédéré, enfin quelque chose un peu où vous pouvez discuter de la technique, où vous pouvez éventuellement voir des bouchers, enfin voilà, est-ce que il y a des réseaux?
Alors, il y a une fédération qui est en train de se construire parce qu'avant il y avait pas de fédération. Ouais. Donc après, il y a beaucoup d'éleveurs qui se montent, qui se démontent. Comme il y a peu d'investissement, en fait, il y a des gens qui arrêtent ou non. Donc après, nous, jusqu'à maintenant, on travaille bien avec un qui est juste à côté de chez nous. Comme on est au laboratoire avec 10 autres éleveurs d'escargots, forcément, il y a des interactions, on se dépanne pas mal. Et après, on fait partie d'une association, mais qui concerne plus le quart sud-est. Après, je sais qu'il y en a une autre plus dans l'ouest.
Ouais.
Mais il y a des choses à faire. Là, il y a des choses qui se mettent en place, des discords pour justement communiquer. Il y a des groupes Facebook pour essayer de communiquer, pour essayer de comprendre. Parce que des fois, on patauge un peu dans la semoule tout seul. Puis en fait, le voisin a la réponse à la question.
D'accord. Et sur la race d'escargot que vous avez choisie, donc tu l'as dit, c'est je ne sais plus quoi.
Il y a ça.
Est-ce que tout le monde a la même classiquement en France, ou est-ce que vous, c'est un choix qui a une raison pour laquelle vous avez choisi cette race-là?
En gros, il y en a deux qui, en fait, ils sont élevés, ils ont choisi d'être élevés en France, ils sont originaires du Maghreb, parce qu'en fait, ils sont élevés sur une année. L'escargot de Bourgogne, il faut 2 ans pour qu'il soit immature, alors que le nôtre, en 18 à 21 semaines, il est adulte.
D'accord.
Voilà. Et du coup, après, ça s'élève du petit gris et du gros gris. D'accord. Le petit gris, c'est plus dans le sud, et on n'enlève pas l'intestin, en fait. Souvent, ils sont vendus ou mangés directement ébouillantés, comme ça.
D'accord, oui, ok.
À la catalane, tout ça, ça se fait bien.
Oui, d'accord.
Sur les barbecues.
Je vais revenir un peu sur le parcours aussi de ta mère et le tien. Ta mère, a priori, elle était banquière, elle se destinait pas forcément à être agricultrice. À quel moment, comment t'expliques le fait que d'un coup...
Elle en avait, enfin, un peu une envie de changement. Ouais. Et puis, en fait, bah, après, mon père lui a dit qu'il la suivait. Il est assez bricoleur, donc il nous aide bien à faire les parcs, tout ça. Donc, une envie d'être à l'extérieur. Ouais. Elle a réfléchi, bah, en visitant pendant les vacances. Enfin, ça a germé au fil du temps. Et elle s'est dit, bah, pourquoi pas. Puis, elle a fait la formation. Elle a dit, je fais la formation. Qu'est-ce que j'ai à perdre? Ça a duré 4 mois. Ouais. Après, on a commencé, par la première année, on a fait un tout petit parc avec 2000 escargots, après 45 000. Après, ils ont eu l'opportunité de pouvoir acheter une maison avec plus de terrain. Ouais. Et du coup, de rénover cette maison. Et après, on a développé les parcs au fur et à mesure.
Et là, du coup, les parcs, ils sont sur à peu près quelle surface en mètres carrés?
Il y a 5 parcs de 200 mètres carrés.
D'accord.
Plus un petit parc pédagogique où on fait des visites.
Ok, du coup, il y a des classes qui viennent, des enfants?
Très peu, mais avec l'office du tourisme, on fait tous les vendredis.
D'accord.
Et après, ça se fait avec le bouche à oreille. Et là, par exemple, la semaine prochaine, on fait un J-apéro.
D'accord.
Parce qu'avec mon canton, on fait un événement, un apéro festif, en fait, sur l'exploitation. Donc, il y aura des petites visites et après, une petite buvette. Et c'est l'occasion que la population, elle nous rencontre.
C'est cool. Au moment où tu t'es installée, donc tu l'as dit, t'as fait ton accompagnement à l'installation classique, donc t'as eu ta DGA.
Oui.
Les autres porteurs de projet, quand t'es arrivée avec tes escargots dans un territoire forte dominante laitière,
comment ils te regardaient? Enfin, moi j'ai trouvé que quand je suis arrivée au stage 21h, par exemple, il y avait, en éleveur laitier, il y en avait pas tant que ça.
D'accord.
Il y a une forte population de gens qui essayent de faire des PAM, du maraîchage.
Ouais. D'accord.
Du coup, il y en a certains professionnels qui m'ont dit « Ouh là là, encore une qui veut faire des escargots avec un projet des fois un peu farfelu. » Enfin, c'est pas méchant, mais...
Oui, des fois un peu déconnecté de...
Voilà.
De
et, donc, du coup, après, en discutant avec les gens, ça s'est bien passé. Souvent, ils en rigolent, ils ont souvent des questions, pas mal de questions. Souvent, les gens sont curieux, c'est tout ça. Après, tout le monde se moque de moi parce que me dire, tes escargots, quand ils partent pas très vite. Sauf que je leur dis, toi, ta genisse, tu la vois. Moi, ça fait crac sous les pieds, donc c'est pas très rigolo non plus.
D'accord. Normalement, je demande aux agriculteurs, alors qui ont des vaches ou des brebis ou des chèvres, s'ils en ont une préférée qu'ils aiment bien.
Alors souvent, ma grande blague...
Est-ce que tu as un escargot que tu arrives pas à aller bouillanter?
Non, souvent, ma grande blague, c'est non, je les bloque tous les soirs au cornadis et je leur donne la farine, celui qui est gentil, pas gentil. Ouais. Non, je m'amuse pas à ça. Il y a le chien, sinon, je
mets en dehors. C'est déjà bien.
Dehors des escargots, non, ils sont jolis.
C'est quoi, du coup, tes prochains projets sur l'exploitation?
Là, à court terme, ça va être le magasin de producteurs, où ma maman est présidente, donc, sur l'exploitation, enfin, sur l'ancienne commune où on était, donc, à 8 km, on est du magasin. Ouais. Donc, ça va être ça. Après, ce sera le labo à court terme, redéveloppé tout doucement. Après, on développe de nouveaux circuits. Là, on a pas mal d'événements qui arrivent. On a dans notre village, on a un bar qui est super dynamique. Donc, du coup, on a le marché, la fête. On va faire le paquet avec les jeunes agriculteurs, où on invite la population des villes. Donc là, je fais toujours une animation... avec des escargots, avec un petit panneau, des explications, comme j'ai fait à Vache en Piste.
Ouais.
Et voilà.
D'accord. Et à moyen et long terme, tes projets?
J'en ai plein.
oui, vas-y.
J'en ai plein. Après, avec le labo, ça va être... Enfin, j'en ai plein, mais à la fois, il y a tellement de choses à faire. J'en aurais pour des heures à raconter mes projets, toutes mes envies, mais... Non, développer l'exploitation, on s'entend très bien avec ma maman, donc... Elle a encore 10 ans avant la retraite, donc on a de quoi faire. Un projet en dehors du labo, j'en aurais pas.
D'accord, mais t'en es déjà un beau, hein.
dit comme ça,
c'est déjà un beau projet, ouais.
Que le magasin marche, ouais. Que après développer d'autres projets, pourquoi pas.
Et les produits, justement, tu as dit, vous avez une gamme de produits. Comment vous les avez développés? Comment vous avez décidé de faire tel, bon, l'escargot en coquille traditionnel, oui. Celui-là, on peut, j'imagine qu'on peut pas passer trop à côté. Mais justement, les petits escargots d'apéro, là, tu parlais de rillettes aussi.
Ouais. Bah après, ça, ma maman a fait des stages. Moi, dans mon parcours d'installation, ouais. J'ai dû refaire des stages aussi. Donc du coup, chez d'autres éleveurs, en échangeant avec d'autres recettes. Après, par exemple, on a eu essayé de faire des choses, même nous, pour goûter.
Mmh, ouais, bien sûr.
Typiquement, on a essayé de faire une tome à l'escargot.
Ouais.
Goûter. On l'a pas forcément vendue, mais on l'a fait goûter à des gens pour qu'ils en parlent. Après, je développe des petites recettes que je pose dans les magasins de producteurs. Ouais. On a fait des brochettes, par exemple, qu'on a essayé de vendre, mais en fait, le temps passé, nous, était trop important par rapport à la valorisation. Ouais. Donc, du coup, on a abandonné le projet. Par contre, j'ai noté la recette et je la propose dans les magasins de producteurs. Après, par exemple, là, on a fait... la semaine passée, on a fait des pizzas aux escargots.
Ouais.
À terme, pourquoi pas, le jour où on a notre labo, qu'on a un surgélateur chez nous, pourquoi pas les vendre au magasin directement sous forme de pizza? Il y a des tas de recettes à faire comme ça. Il y a des risottos, des quiches. Bon, les quiches, ça, maintenant, tout le monde commence à bien connaître nos quiches aux escargots. Mais une fois qu'on aura le labo, il y aura plein de recettes à faire. Je vais m'éclater.
D'accord. Et juste, d'accord. Mais par exemple, pour les escargots à apéro ou les rillettes, c'est des recettes que vous avez, dont vous avez peut-être entendu parler en formation ou en envoyant d'autres. Et vous avez réussi à vous les équilibrer les standardiser.
Après, parce que les équilibrer, des fois, il y a certaines personnes qui nous disent vos croquis, elles sont trop salées. Alors, on a réduit le sel, par exemple. À terme, c'est souvent ce que je dis. Je dis, ma sœur, elle fait des saucissons. Elle peut avoir, il y a une personne, il va vouloir un saucisson sec. L'autre,
c'était pas par rapport au consommateur que je posais la question, c'était par rapport à vous aussi, tu vois.
On fait des produits qu'on aime.
Voilà.
Mais moi, je parle du principe.
Qu'ils soient assez standardisés pour qu'en termes de temps, ce soit aussi optimisé, tu vois.
Oui.
J'imagine que quand tu cuisines ta production, ça peut te prendre forcément beaucoup de temps. Donc, t'as aussi intérêt à avoir un peu un truc...
C'est ça. Après, on a essayé de faire des... Comme c'est pour ça qu'on a arrêté les brochettes, par exemple.
Ouais, voilà.
On s'est rendu compte que ça nous prenait trop de temps par rapport, par rapport à la valorisation qu'on proposait derrière. C'était trop compliqué. Mais après, c'est des produits qu'on a essayé. Par exemple, on a fait une farce chèvre-noix pour les gens qui n'aiment pas l'ail.
D'accord.
À terme, quand on aura plus de temps, qu'on pourra faire plus de choses, pourquoi pas en faire une à la provençale?
Ouais.
Et après, j'aurais bien aimé en faire une à la tome ou un truc vraiment typique d'ici. Ouais. Après, c'est l'achat coup de cœur. Les gens vont prendre 4 douzaines de bourguignonne à persil. Et après, ils vont prendre 1 douzaine de tomes ou 1 douzaine de chèvre-noix. C'est rare les gens qui vont dire, je vais prendre 5 douzaines de chèvre-noix.
Ouais, d'accord. Je vais te poser 4 questions un peu rapides.
Oui.
Quel est le dernier film ou la dernière série que tu as aimé?
La dernière série que j'ai regardée, c'est Heartland. Parce que je suis une petite fille.
Ok. La dernière recherche Google que tu as faite.
Ouf, faut que je regarde mon téléphone, ça.
Comme tout le monde, vas-y, je t'en prie.
C'est la météo.
Ah, bah, comme si tu aurais dit pour un agriculteur. Je crois qu'il y en a un sur deux qui me répond. La dernière musique que tu as fredonnée.
Ah, c'est du reggae, c'est de Bing.
Et le dernier achat que tu as fait pour ton métier?
J'ai été acheter des gants ce matin pour ramasser les escargots.
D'accord.
Voilà.
C'est des gants spéciaux ou c'est juste des gants?
Non, c'est des gants à métro, rien de bien plus classique. Et c'est juste que ramasser 1 ou 2 escargots, ça va, mais après, ça fait beaucoup de bave.
Ouais.
Et c'est compliqué.
Mais t'arrives à l'enlever après quand... Enfin, ça doit...
La bave, en fait. Ouais, bah, quand on en ramasse... Vraiment, mais quand j'en prends quelques-uns dans les mains, en frottant les mains, en fait, c'est rempli de collagène et je sais pas si ça s'intègre à la main ou si ça disparaît. Mais en tout cas, alors que quand on prend une limace dans les mains, ça fait pas pareil et la bave elle colle.
Ouais.
Et du coup, c'est pas agréable.
Non, effectivement.
Pour ça que j'ai les escargots et les limaces.
C'est meilleur aussi. De quoi tu es fière aujourd'hui?
Je sais pas. Je pense que je suis fière de ce qu'on a fait, le projet qu'on a monté tous ensemble. Et
c'est déjà pas mal.
Ouais.
C'est déjà bien.
Ouais.
Dernière question. Comment tu t'y sens dans tes bottes, même si t'en as pas?
Bah bien, il y a plein de choses à faire, il y a plein de projets, il y a plein d'envies. Et tout doucement, enfin, je vis au jour le jour, pas au jour le jour, mais je me laisse porter.
Ok.
Je me laisse porter, et enfin, tout en étant très dynamique, hein, mais je me laisse porter.
D'accord. Merci, Noémie.
Merci.
On peut devenir agricultrice en créant complètement son activité. On peut être éleveuse en Haute-Savoie et ne pas élever de vaches laitières. On peut être épanouie et heureuse en ayant deux activités professionnelles complémentaires. Enfin, on peut adapter son outil de travail pour qu'il reste confortable et vivable. C'est ça, être agricultrice aujourd'hui. À bientôt, dans de nouvelles bottes.
Si vous avez aimé, n'hésitez pas à partager ce podcast ou à le noter avec 5 étoiles sur Apple Podcasts. Laissez-nous un petit like ou un commentaire, nous serons infiniment heureux de vous lire. À bientôt dans de nouvelles bottes.